L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
On sait qu'il existe en France une crise du logement qui touche également notre territoire, notamment les zones géographiques du Pays de Gex, de la Plaine de l'Ain et de Grand-Bourg agglomération. Plus grave, dans l'Ain, les signalements de mal-logement ont augmenté de 40% entre 2024 et 2025. Pour lutter contre cet état de fait, un nouveau plan d'action pluriannuel de lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique a été signé en préfecture le 20 janvier 2026. Ce nouveau plan s'étendra jusqu'en 2029. Son objectif principal, mener une étude d'ampleur sur le département. D'ailleurs, une plateforme en ligne aidera les élus locaux à lutter contre l'habitat indigne pour les accompagner dans des démarches complexes. Mais que faire en tant qu'individu? Sur le terrain, l'ADIL, l'Association départementale d'information sur le logement, existe pour conseiller les locataires et les propriétaires, car chaque partie a bien sûr des droits, mais aussi des obligations. La direction de l'ADIL, Madame Isabelle Chanel, nous a reçus pour nous décrire les situations souvent rencontrées sur notre territoire et nous expliquer comment l'ADIL peut intervenir auprès des bailleurs ou des locataires.
On la retrouve tout de suite après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves.
Les mots et le bien-être des femmes sont à l'honneur.
Au centre social du Plateau-Gare à Bourg-en-Bresse, des élèves de la section esthétique du lycée Marcel Pardet proposeront du maquillage et des soins esthétiques pour les femmes les 9, 12 et 13 mars prochains. Également gratuit, un atelier d'écriture créative ainsi que de la réflexologie plantaire et de l'éthiopathie seront aussi proposés le 10 mars. Au domaine de la garde, en lien avec l'AVEMA, l'association d'aide aux victimes du département de l'Ain, c'est une soirée qui sera organisée avec une exposition de femmes résistantes dans l'Ain, ainsi qu'une conférence par Maître Jean Laurent, avocat sur l'évolution des droits des femmes. Ces événements sont ouverts à toutes et tous, sur inscription au Centre Social Plateau-Gare, leur téléphone le 04 26 88 01 40.
Deux nouveaux médecins au centre de santé Grand-Bourg agglomération.
Depuis le 9 octobre dernier, le centre de santé au 244 avenue Sansevero avait ouvert avec deux médecins. Les docteurs Randretsa et Deba sont venus compléter l'équipe. Ils travaillent trois demi-journées par semaine et ont accueilli leur premier patient en février. La prise de rendez-vous peut se faire par téléphone, sur place ou sur la plateforme Maya. Depuis octobre, le centre a honoré 1366 rendez-vous et 925 patients ont trouvé leur médecin traitant. Pour contacter ce centre de santé par téléphone, le numéro est 04 74 50 58 00.
Remise en question du réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire du Bugey.
Depuis des années, l'association Sortir du nucléaire Bugey alerte sur les dangers croissants liés à l'activité de la centrale. Pour eux, le réacteur du Bugey, numéro 3, créé il y a 48 ans, n'est pas à l'abri de dysfonctionnements graves. L'association précise que les réacteurs ont été conçus pour durer 25 à 30 ans, avec une période de sûreté de 10 ans. Celui du réacteur Bugey numéro 3 serait donc trop vieux pour fonctionner correctement. L'association demande l'arrêt de la centrale avant qu'il puisse arriver un accident. Pour elle, le PPE3, la programmation pluriannuelle de l'énergie, autrement dit la nouvelle feuille de route énergétique de la France, va freiner le développement du photovoltaïque et arrêter l'éolien au motif que la consommation électrique stagne en France et que les réacteurs nucléaires actuels ne sont pas adaptés pour moduler leur production en fonction de celle des énergies électriques renouvelables. Le SDN Bugey sera présent lors d'une permanence le mardi 24 février à la mairie de Saint-Vulbas de 14h à 17h pour échanger avec le public.
L'un dans l'autre, l'interview.
Nous recevons maintenant Isabelle Chanel, directrice de l'ADIL, l'Association départementale d'information sur le logement, afin d'évoquer le mal-logement sur notre territoire. Quels secteurs sont concernés? Quels sont les leviers d'action pour les locataires comme pour les propriétaires? On l'écoute.
Est-ce que vous voulez bien vous présenter à nos auditeurs et nos auditrices, s'il vous plaît?
Bonjour, Isabelle Chanel, directrice de l'ADIL de l'Ain, l'Agence départementale d'information sur le logement.
L'ADIL, c'est quoi exactement ?
La DILA a une mission de service au public, celle de délivrer des conseils juridiques, financiers et fiscaux dans le domaine du logement de façon totalement gratuite et neutre et personnalisée.
Donc que je sois propriétaire ou locataire, je peux venir vers vous si j'en ressens le besoin ?
Tout à fait, nous sommes ouverts à tous les publics.
On se rencontre pour parler du mal-logement. Qu'est-ce que la loi considère comme un logement indécent ou insalubre ? D'ailleurs, y a-t-il une différence entre ces deux termes ?
Alors, il y a effectivement une définition légale qui est relativement récente puisqu'elle date de 2009. Et on va considérer qu'un logement est indigne dès lors qu'il présente des risques pour la santé ou la sécurité des occupants. Mais attention, il y a des niveaux de gradation différents. Il y a ce qu'on appelle de l'indécence qui va être régie par un texte particulier et que les locataires pourront faire valoir à l'égard de leur propriétaire bailleur. Et vous avez d'autres notions comme l'insalubrité ou le péril qui sont des phénomènes beaucoup plus graves. L'insalubrité se définissant comme un ensemble de dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte à la santé des occupants. Quand le péril va, lui, porter atteinte à la sécurité des occupants. La santé peut être affectée par du non-respect du décret d'essence, comme par exemple l'apparition de moisissures ou une ventilation qui est en panne et qui va générer un taux d'humidité relativement important. Alors que l'insalubrité va se traduire par des désordres qui vont affecter le logement au point qu'on ne pourra pas maintenir l'occupation du logement. Donc là, on sera sur un arrêté qui sera pris et qui interdira l'occupation du logement de façon temporaire ou définitive.
Quels sont les droits d'un locataire qui estime que son logement n'est pas conforme aux critères de décence ?
Si on est sur le non-respect d'une obligation de décence, la première chose à faire, c'est déjà de s'assurer que la réglementation n'est pas respectée, parce que certaines personnes pensent parfois vivre dans un logement qui n'est pas conforme à la réglementation et on découvre effectivement que oui, le logement est bien conforme, mais que parfois il y a aussi des problèmes d'utilisation du logement par le locataire qui peuvent créer des problèmes. Mais dans l'hypothèse où il s'avère que le logement n'est véritablement pas conforme à l'obligation de décence, il faut déjà que le locataire commence par une lettre recommandée avec accusé réception dans la mesure du possible, adressée au propriétaire bailleur, qui va permettre de décrire les problèmes rencontrés et de rappeler en quoi le logement n'est pas conforme à la réglementation. La DIL peut tout à fait informer le locataire comme le propriétaire des obligations qui doivent être respectées. Il ne faut jamais oublier que les deux parties ont des droits, mais aussi des obligations.
Est-ce que vous avez un exemple concret de mauvaise utilisation, ce que vous venez d'évoquer ?
Alors, il arrive malheureusement parfois que face à des dépenses énergétiques très très importantes, un locataire, pensant bien faire, bouche les grilles d'aération des fenêtres. Ça va avoir un effet inverse à celui recherché, c'est-à-dire que non seulement ça ne va pas permettre d'économiser de l'énergie, mais en plus ça va créer un effet cocotte-minute et donc l'apparition de moisissures qui vont développer des spores et bien entendu des maladies pour les occupants. Il ne faut absolument pas boucher les grilles de ventilation, au contraire il faut les laisser fonctionner, ne pas arrêter une VMC parce que c'est ce qui permet d'assainir un logement.
Quelles sont les difficultés au niveau du mal-logement les plus rencontrées sur notre territoire ?
Beaucoup de problèmes de moisissures qui peuvent être liés soit à une isolation assez moyenne du logement, soit à un problème de ventilation qui n'est pas suffisamment dimensionné dans le logement, voire une absence de ventilation mécanique contrôlée. Et donc, vous avez de ce fait des problèmes. Alors, certains locataires, malheureusement, étant en difficulté, notamment par rapport à l'isolation ou les difficultés de chauffer normalement le logement, complètent le système de chauffage par des poêles à pétrole. Si vous rajoutez un poêle à pétrole dans un logement qui n'est pas conçu pour ça, là, vous aggravez encore les problèmes. Donc, il vaut mieux éviter d'utiliser des poêles à pétrole et réagir en alertant son propriétaire sur les difficultés qu'on rencontre. En sachant qu'il est rappelé qu'un logement avec un DPE de niveau G aujourd'hui doit faire l'objet de travaux ou être retiré de la mise en location.
les logements avec un DPE côté F aussi ?
Alors, prochainement, puisque dès 2028, les logements de DPE F doivent être retirés de la location ou faire l'objet également de travaux. Et dans un laps de temps également très court, les DPE E seront interdits à la mise en location à partir de 2034.
Y a-t-il des secteurs géographiques sur le territoire plus touchés que d'autres ?
Alors, j'aimerais vous dire que oui, mais en fait, le mal-logement se trouve de partout. Il prend différentes formes, différents niveaux de gravité, et dans les secteurs dits tendus, comme le sont par exemple sur notre département, le secteur du Pays de Gex, la Plaine de l'Ain ou Grand Bourg Agglomération, on peut découvrir des formes particulières de mal-logement, c'est-à-dire que les personnes ayant beaucoup de mal à trouver un logement vont être parfois orientées sur des logements de très mauvaise qualité ou au contraire des logements qui ne devraient pas être mis à la location. J'ai en tête récemment la découverte d'un local piscine qui avait été transformé en logement, ou également un garage qui n'avait pas vocation à être mis en location et qui pourtant l'a été, ou encore un Algeco de chantier mis à disposition d'une famille de 5 personnes pour un loyer exorbitant.
Quelles recommandations pouvez-vous faire aux personnes confrontées à un propriétaire qui refuserait les travaux nécessaires ou qui serait justement qui respecterait pas la loi tout simplement ?
Alors nous avons évoqué la lettre recommandée avec accusé réception pour alerter et notamment acter le fait que le logement ne répond pas à la réglementation. Si malgré une lettre recommandée, un propriétaire venait à ne pas faire les travaux, il y a différentes façons de réagir. La première, dans la relation propriétaire-bailleur-locataire, il est possible d'initier une procédure devant le tribunal judiciaire visant à obtenir que l'on condamne son propriétaire à l'exécution des travaux sous astreinte, c'est-à-dire une pénalité par jour de retard, ainsi qu'une demande d'indemnisation du préjudice occasionné, comme par exemple si je ne peux plus vivre dans une pièce, je peux demander à un juge de réduire le montant de mon loyer à hauteur des mètres carrés dont je suis privé. Et puis je peux également demander au juge que le propriétaire bailleur soit condamné aux frais et dépens de procédure. Donc il y a tout un panel de sanctions que un juge pourrait prononcer à l'égard d'un propriétaire bailleur qui serait défaillant dans l'exécution de ses obligations. Dans la sphère plutôt publique, la notion de décence dont nous avons parlé et qui est une notion de droit privé a son pendant. C'est-à-dire qu'il existe une notion qu'on appelle le règlement sanitaire départemental et le code de la santé publique, qui sont deux textes mis sous la responsabilité du maire et qui sont quasiment identiques au décret décence, ce qui veut dire qu'un logement, en plus d'une procédure, une action à l'encontre de son propriétaire bailleur dans un cadre de droit privé, peut aussi solliciter son maire pour rappeler au maire via les deux textes qui sont le code de la santé publique et le règlement sanitaire départemental que le propriétaire bailleur se doit de fournir un logement qui respecte des règles précises dans ces textes.
Et donc, quelles seraient les sanctions d'un propriétaire bailleur dans ce cas ?
Alors, dans un premier temps, le maire va adresser une lettre au propriétaire bailleur lui demandant de se mettre en conformité. Et dans l'hypothèse où, là encore, le propriétaire bailleur ne se mettrait pas en conformité, il s'expose à un procès verbal d'infraction dont le montant est relativement important puisqu'il est de 450 euros par infraction lorsqu'on est sur une non-conformité au règlement sanitaire départemental et 750 euros par infraction lorsqu'on est sur le non-respect du code de la santé publique. Un logement au sein duquel on découvrirait qu'il y a 3 ou 4 infractions au code de la santé publique générerait le risque pour le propriétaire bailleur de 3 à 4 PV à chaque fois que le propriétaire bailleur ne résout pas la difficulté.
Tout à l'heure, vous avez aussi parlé du fait que les locataires pouvaient avoir une mauvaise utilisation. Donc, passons de l'autre côté. Quand je suis propriétaire, comment constater une mauvaise utilisation ?
Alors, il arrive effectivement qu'à l'occasion d'une démarche faite par le locataire et qui va se traduire par une demande de diagnostic vétusté, donc là, ça s'inscrit dans le cadre du plan départemental de lutte contre le mal-logement, un opérateur va être désigné pour aller visiter le logement. Il arrive qu'à l'occasion de cette visite, qui a pour objectif d'objectiver justement les difficultés au sein du logement, on puisse dire le logement n'est pas conforme sur tel et tel point. En revanche, le locataire a une mauvaise utilisation du logement sur tel et tel point. Donc, dans la mesure où le propriétaire bailleur, dans le cadre de ce rapport, peut identifier que le locataire a une part de responsabilité dans la dégradation du logement, il pourra engager une action à l'encontre de son locataire. Par contre, il sera toujours demandé au locataire et au propriétaire de veiller à ce que le logement reste décent. Donc si un propriétaire a des travaux à faire, il est conseillé de les faire. Le locataire a un devoir d'entretien, c'est prévu par la réglementation, il doit veiller sur la chose en bon père de famille. Il doit également alerter le propriétaire bailleur des éventuels problèmes qui apparaissent dans le logement. Ça fait partie de ses obligations, d'où l'intérêt de faire une lettre recommandée pour le locataire, puisque ainsi, non seulement il pourra signaler au propriétaire bailleur les problèmes qui apparaissent dans le logement, mais il pourra aussi respecter son obligation d'information du propriétaire. Parce que s'il venait à ne pas faire cette démarche-là, ou rester dans un cadre oral, il ne pourra pas démontrer qu'il a respecté ses obligations et pourrait paradoxalement se retrouver à devoir assumer les conséquences de son inaction. C'est-à-dire que quand bien même il ne serait pas responsable des dégradations dans le logement, il pourrait en assumer les conséquences.
Que je sois propriétaire ou locataire, comment la DIL peut m'accompagner concrètement si je suis dans une situation où un logement devient dangereux ou impropre à l'habitation?
Alors, dans l'hypothèse où le logement devient dangereux, là on va plutôt parler d'une autre notion qui s'appelle le péril. Nous travaillons immédiatement en lien avec les collectivités et donc on va pouvoir alerter les collectivités et dire attention, dans votre commune il y a une suspicion de logement qui présente un risque pour la sécurité des occupants. Dans un premier temps, on va les encourager à aller voir sur place et à faire des photos pour qu'on puisse avoir une bonne appréhension du risque et définir avec eux s'il y a lieu de prendre un arrêté de mise en sécurité au titre du danger présenté par le bâtiment. Si un maire est amené à prendre ce type d'arrêté, il y aura dans le document des informations en lien avec les travaux à réaliser pour sécuriser le bâtiment. Généralement, on va prendre plutôt un arrêté de mise en sécurité d'urgence, où là, on va prendre des mesures provisoires visant dans l'arrêté à faire en sorte que le danger immédiat cesse. Pas traiter le danger dans sa globalité, mais le danger immédiat cesse. Et également dans l'arrêté, il y aura des mesures en lien avec les occupants, et notamment si ce sont des locataires ou même des propriétaires occupants, on peut aller jusqu'à l'interdiction d'occuper le bâtiment tant que les travaux visant à sécuriser le bâtiment n'ont pas été réalisés.
Mais dans ce cas, il y a aussi des solutions de logement d'urgence qui sont proposées.
Alors, dans les situations de péril, la collectivité, généralement, va traiter l'urgence. C'est-à-dire que, dans un premier temps, les périls induisent de prendre des mesures urgentes, comme son nom l'indique. Donc, parfois, dans la minute, on va décider d'interdire l'occupation d'un bâtiment. Donc, généralement, la première nuit ou les premières nuits sont traitées à l'échelle locale par le maire qui a pris l'arrêté. Mais il faut savoir qu'un bâtiment qui présente un péril, dans le cadre d'un arrêté, la réglementation impose aux propriétaires et notamment aux propriétaires bailleurs d'assurer soit le relogement, soit l'hébergement du locataire et à ses frais. Et quand bien même la collectivité se substituerait dans un second temps en proposant par exemple un logement social, ça restera aux frais du bailleur.
Quelles sont les limites de l'intervention de la DIL? À quel moment orientez-vous vers d'autres acteurs? Justement les services sociaux, donc les mairies, on en a parlé, les services sanitaires, les associations spécialisées autres.
Alors, nous n'avons pas une compétence technique, donc on restera dans le juridique, mais nous sommes néanmoins guichet unique de la lutte contre l'habitat indigne, ce qui veut dire que derrière, à partir du moment où on identifie un problème, il y a tout un ensemble d'acteurs qui vont intervenir. Il y a l'ADIL au niveau juridique, derrière le pôle va pouvoir déclencher une visite à domicile, ça sera donc un opérateur, qui ne sera pas le même s'il y a ou non une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur le territoire, mais en tout cas il y aura un opérateur qui se déplacera à domicile, qui lui a une compétence technique, qui fera dans un second temps un rapport. Ce rapport est porté à la connaissance de la collectivité sur laquelle se trouve le logement, à la connaissance du locataire et du propriétaire, l'idée étant d'amener notamment les propriétaires bailleurs à faire les travaux et arrêter à ce niveau-là finalement les enjeux du mal logement. Mais dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de travaux de réaliser, derrière il y a tout un suivi et de relance qui est assuré régulièrement. Ça peut aller jusqu'à l'établissement d'un PV d'infraction. Certaines mairies commencent maintenant à utiliser cet outil comme étant un levier. Il faut savoir également qu'il y a un travail invisible qui est un travail avec la CAF et la MSA dans la mesure où un allocataire qui perçoit une aide au logement, dont le logement est déclaré indécent, aura son aide au logement qui fera l'objet d'une conservation. C'est-à-dire que la CAF va bloquer pendant jusqu'à la réalisation effective des travaux le montant de l'aide au logement à laquelle le locataire pourra prétendre et va adresser deux courriers, l'un à au propriétaire pour lui expliquer qu'elle va bloquer le versement des aides au logement jusqu'à la réalisation effective des travaux. Et si le propriétaire fait les travaux, il y a un reversement avec effet rétroactif. S'il ne fait pas les travaux, l'aide au logement est perdue. Et en parallèle de ceci, le locataire reçoit, lui, un courrier dans lequel il est informé qu'il a le droit de payer que le loyer résiduel, c'est-à-dire le montant du loyer moins l'aide au logement. Et l'avantage de la conservation des aides au logement, c'est que le locataire n'est pas en faute lorsqu'il paye que le loyer résiduel. Par contre, attention, un locataire qui ne perçoit pas de l'aide au logement et pour lequel il ne va pas pouvoir bénéficier du dispositif de conservation d'aide au logement, il y a une chose à retenir, c'est que le locataire ne peut jamais se faire justice lui-même et décider de ne pas payer son loyer. Seul un juge peut autoriser une conservation des aides au logement ou une mesure administrative comme un arrêté d'insalubrité ou un arrêté de péril.
Vous parlez des mairies, mais est-ce que c'est aussi une compétence, le logement, des communautés de communes ?
En ce qui concerne le mal logement, il existe une possibilité de transfert de compétences aux communautés de communes. Les mairies peuvent décider. Dans le département de l'Ain, c'est un choix qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc les mairies ont gardé leurs compétences en matière de péril, en sachant que tout ce qui relève de l'insalubrité n'est pas une compétence de collectivité, mais une compétence État. Donc ce qui veut dire que c'est l'ARS qui va représenter l'État dans la mise en œuvre de ces arrêtés.
Et donc vous, l'ADIL, vous pouvez diriger les personnes qui en ont besoin vers des représentants de l'ARS ?
Oui, tout à fait. C'est ce travail de partenariat sur le mal logement qui fait que on arrive à des résultats relativement intéressants sur le département de l'Ain.
Ici, on est à Bourg-en-Bresse. Est-ce que l'ADIL a d'autres bureaux sur le département ?
Alors, le siège de l'ADIL est sur Bourg-en-Bresse, mais l'ADIL assure 13 permanences par mois réparties sur l'ensemble du département de l'Ain, avec une forte présence dans toutes les grandes agglomérations, en tout cas dans tous les grands EPCI, Pays de Gex, Grand Bourg Agglomération, alors que nous avons notre siège à Bourg, nous intervenons également à la Maison de la Justice et du Droit. Nous intervenons à Ambérieu, à Belay, Trévoux, Châtillon-sur-Chalaronne, je dois en oublier, mais voilà, on est présent sur tout le département.
On remercie Isabelle Chanel d'avoir répondu à nos questions. Pour tout renseignement sur votre logement, que vous soyez locataire ou propriétaire, contactez l'ADIL au 04 74 21 82 77. Quel que soit votre lieu d'habitation dans le département de l'Ain, des permanences sont organisées. Vous écoutez L'Ain dans l'Autre,
le mag d'info locale
sur Radio B.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Perrine.
Merci Elsa et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
D'ici là, restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
Bonne semaine à toutes et à tous.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.